Chapitre 6. Itinérance. Ainsi, Serge et Adrien quittèrent Paris, la tête pleine de projets, ces souvenirs habités de rêves que les hommes aiment à poser sur leur présent pour en combler les vides. La ville est noyée dans une nuit de rafales pluvieuses. Sur le périphérique, quelques insomniaques déprimants lancent leurs voitures en d'aléatoires embardés pour tuer les petites heures du matin. « Tu es bien ?» Serge conduit. Adrien soupire d'aise. « Il y a 15 jours, je n'ai jamais pensé partir avec toi. Fabuleux ! L'idée de ce temps entre parenthèses, entre deux lieux. On va se régaler, tu vas voir. Plus d'urgence, plus d'obligation, le temps libre par excellence et... Ah, doucement, on n'est tout de même pas parti dans un but bien précis. Tu n'as pas oublié, t'y chites. Je sais, mais ça ne m'empêche pas de me sentir totalement disponible à moi-même, en fait. Je passe toutes mes journées vissées devant mon bureau. Je n'ai jamais pas de résultats tangibles pendant des semaines, des mois, alors, tu comprends. C'est magnifique ce voyage à venir, déjà entamé, mais encore à faire, suspendu aux paysages qui ne sont pas encore nés et que nos yeux vont faire advenir. Serge sourit. Il est lui-même heureux de ce moment. Les essuie-glaces contre la pluie obstinée, les glissières de sécurité filant retrouver la ville loin derrière eux, l'habitacle bleu de la voiture tel un tendre cocon. Adrien est silencieux. Bercé par le bruit régulier du moteur, il écoute la sérénité habituelle dont il est envahi. Lui qui déteste tellement les départs qu'il vit toujours comme des déchirures sans savoir véritablement ce dont elles le séparent, il lui semble au contraire être accompagné cette fois-ci. La nuit encore dilue bloie sous la pluie, puis l'aube déjà avancée suggère Bordeaux. Il a dû somnoler. Ce sont maintenant les forêts de pins des Landes, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz. On s'arrête et tu prends le volant. Toujours d'accord pour filer sur Madrid? C'est tout de même plus raisonnable que de prendre par le Portugal. J'aurais aimé passer par Évora, les glycines doivent y être en fleurs, et les maisons fraîchement chaulées. À cette saison, les clochers des églises sont couronnés par les nids des cigognes qui nourrissent leurs petits. Tu peux voir aussi les plus belles filles du pays à la sortie de la messe. En été, oh, tu n'as aucune chance, il n'y a que des vieilles drapées dans leur voile noire. Parce que l'été, les demoiselles perdent la foi, raille Serge, qui ne doute pas de lancer ainsi son frère sur ses chevaux de bataille. « Arrête ! Oh non, il faut voir les processions de Pâques au Portugal. C'est quelque chose d'inouï. Chaque village rivalise pour faire défiler les chars les plus somptueux, avec profusion d'or et de fleurs. Curieux peuple, marin et pourtant si fort attaché à sa terre, partagé entre fastes extravagants et mélancolies. » La saudade. J'ai lu quelque part que l'âme lusitane et l'âme juive étaient sœurs. Par quel mystérieux chemin la rencontre s'est-elle faite? Au début, les califes étaient tolérants à l'égard des juifs installés au Portugal. Ceux-ci étaient les premiers à publier des ouvrages imprimés, livres de prières, traités de médecine, etc. Mais les relations ont vite dégénéré. Seulement les fados sont toujours les pleurs de la conscience douloureuse que les hommes ont de leur destin. Et la musique guismer fait toujours couler les larmes des mariés. D'un côté comme de l'autre, le même bouleversement quand tu écoutes. Pour le moment, Adrien, je n'entends que mon besoin urgent d'un bon café. On fait une pause, tu veux ? Je suis fatigué. Quelques instants plus tard, les deux hommes sont attablés. un peu étourdis de tous ces kilomètres parcourus dans l'habitacle bleu de leur voiture. Ils regardent autour d'eux les rares voyageurs, formant un ensemble hétéroclite, silencieux, dont les gestes semblent effectués au ralenti. Un enfant pleure doucement, sans conviction, devant une tasse de chocolat. Il est posé là, entre le père et la mère, présence presque incongrue tant il est menu et ignoré dans la vaste salle qui ne ressemble ni à un hall de gare, ni à celui d'un aéroport, sorte de non-lieu en tout lieu identique où des silhouettes sans étoffe se croisent, vont et viennent en un lent ballet que ne gouverne aucun sens. Une demi-heure plus tard, Serge et Adrien ont repris la route de Madrid, où ils s'arrêtent pour dormir. Ils ne voient rien. Pour le moment, ils roulent le plus efficacement possible, en se relayant toutes les 2 heures pour ménager leurs forces. Lorsque Serge ne conduit pas, il reste éveillé la plupart du temps et s'active à 1000 occupations sérieuse et futile. Il fait des mots croisés, puis décide dans l'instant qui suit de dormir, ce qui déclenche une mise en condition sophistiquée, coussin derrière la nuque, recherches infinies de la position idéale, blouson pour occulter la lumière du jour. En général, à peine installé, Serge décide qu'il est bien plus urgent de vérifier les kilométrages et les temps d'arrêt qu'ils peuvent s'octroyer. Il se lance alors dans de savants calculs qui pourraient laisser penser que la totalité du parcours prévu est remise en cause, tant il propose d'alternatives d'hypothèses, de solutions nouvelles avec une constance indéfectible. Adrien a très vite compris que ce n'était là que prétexte à jouer avec les chiffres, tout en tripotant quelques-uns des multiples gadgets, compteurs, GPS et autres instruments de mesure dont son frère raffole et qu'il apprend à manipuler alors que lui-même n'en soupçonnait même pas seulement l'existence jusqu'à ce voyage. Bref, Serge au repos, c'est très fatigant pour qui aime le calme. Il n'a de cesse de trouver de quoi dépenser son énergie, qui semble vouloir faire exploser l'habitacle du véhicule. Adrien s'est habitué très vite à ce remue-ménage, continuant de parler ou de se taire, sans se laisser perturber par les agitations de Serge. Il résiste au plaisir de rêver lorsqu'il conduit, parce qu'il s'est aperçu combien alors il peut être en retrait par rapport à ce qu'il fait. Sur un court trajet, ça n'a guère d'incidence, mais là, la situation est différente. Il réserve donc aux plages de temps libre ses songeries indéfiniment rebrodées sur les mêmes étoffes, ne parvenant jamais à aller au bout de l'une d'entre elles, tant la fiction est tenace face à la réalité qui résiste, l'une ne cédant jamais à l'autre. La somnolence un peu comateuse dans laquelle il s'enfonce régulièrement se mêle aussi de la partie, l'obligeant par la suite à reprendre le canevas de ses rêves et de sa vie pour en démêler les fils et les disposer en de subtiles combinaisons. Il est alors silencieux de façon si intense que Serge s'inquiète de son état. Ça va? Oui, je dors, murmure Adrien, soucieux de préserver l'intimité nécessaire au développement particulièrement délicat d'un beau moment onirique. Tu dors les yeux ouverts, toi, maintenant? Trop tard, la vision a fui, effarouchée par l'irruption de la voix de Serge. Oh non, enfin, je rêve assez. C'est d'ailleurs absolument nécessaire, ne serait-ce que pour ton propre bien. N'es-tu pas déjà suggéré qu'il fallait que je commence à économiser ma salive en vue de la traversée du désert? Tu n'as pas changé, Adrien. C'est pour cela, en fait, que j'ai décidé de partir avec toi. Tu te rends compte? Il nous suffisait de prendre l'avion et nous étions à Tichy en un rien de temps. Mais j'aurais loupé tes monologues sans fin et tes silences sans fond. Comme lorsque nous étions gosses. Qu'est-ce que tu as pu m'agacer parfois quand tu restais des heures sans dire un mot à plat ventre sur le sable? Je me souviens, oh, ce n'était pas encore les vacances et il n'y avait personne sur la plage. Oh, je m'embêtais ferme. Tu voulais rien faire, toi. Ou alors tu parlais si plein de tes mots qu'il n'y avait pas de place pour rien d'autre, surtout pas pour mes interruptions. Ah, un jour tu t'es mis en colère à la suite d'une de mes questions que tu jugeais tellement idiote qu'elle te semblait être une injure à tes discours. Ah, tu es bien le même, ah, le pire, le plus beau. C'est que j'aime cela aujourd'hui, et c'est maintenant vraiment que je m'en rends compte. Il aura fallu tout ce temps pour que nous devenions frères, toi et moi. Dis-moi, on fera halte à Mazagran. Oh, tu veux dire El Jadida? Arrête, tu as très bien compris. Tu tiens visiblement, pas toi? Bon, je n'ai pas les mêmes souvenirs que toi, si c'est cela que tu veux dire. Ou alors, je suis encore trop jeune pour que ma mémoire soit sensible à ce lieu. Nous y avons vécu tout de même plus de 12 ans. Ah, tu parles pour toi. Mais Serge, ce sont tes racines. Mes racines, oh, tu sais bien que je les ai plantées plus tard et ailleurs. Ne sois pas déçu. Bon, je comprends ta nostalgie. Sache que la mienne est posée sur d'autres paysages. Tiens, j'en viens à parler comme toi. C'est drôle, avec toi je baigne dans un univers complètement étranger au mien, comme si les mots ne pouvaient que prendre des libertés avec leur sens usuel. Ils vagabondent et ça m'oblige à aller les chercher là où je n'ai pas l'habitude de les trouver. Bien, bien, tu sais causer, toi. Mais derrière l'accent moqueur du ton d'Adrien, la tendresse est présente. Les deux frères se découvrent au travers de ce voyage des complicités dont ils ne savaient pas l'existence. Ils connaissaient plus leurs différends et leurs divergences que la promiscuité de l'adolescence avait révélé, et de l'âge adulte, avec son lot de charges professionnelles et familiales, s'était chargé d'entériner. Depuis quelques jours, ils se réapprivoisent avec une émotion non dissimulée, s'étonnent des proportions énormes qu'a pu avoir tel événement pour l'un ou pour l'autre, qu'il a oublié, et de ce que derrière l'enveloppe dont chacun est affublé, il puisse y avoir un être qui ne correspond ni à l'étiquette censée l'identifier, ni à l'image trouble et mouvante des souvenirs. On s'arrêtera à El Jadida, bien sûr. Quand je te dis que mes racines n'y sont pas, j'exagère, elles n'y sont plus, et pas encore. Probablement n'ai-je pas réglé tous mes comptes avec cette période. Mais je sais qu'un jour j'aurai sans réticence le désir de revenir moi aussi. Ce jour-là, allez bon, hâte cette trêve d'attendrissement. Avant de bivouaquer dans le berceau de notre chère famille, il faut déjà que nous procédions aux dernières vérifications approfondies pour nous lancer dans cette traversée du pays dans de bonnes conditions. On trouvera ce qui pourrait nous manquer à Tanger. On se donne 24 heures de pause, d'accord? La journée passée à Tanger a été très remplie. Adrien ne soupçonnait pas la quantité de détails auxquels il fallait penser avant de partir dans le désert. Serge avait déjà fait les préparatifs nécessaires à Paris, mais il tenait à ce que tout soit vérifié méticuleusement. Il avait par le passé effectué des périples de cette envergure, et c'est bien le goût de ce qu'il avait alors connu en émotion qui l'avait poussé à suggérer à Adrien cette longue descente en voiture depuis Paris jusqu'en Mauritanie. Il prétendait qu'on ne saurait approcher les hommes et les pays en se contentant de descendre d'un avion, parce qu'il est nécessaire que le voyageur se transforme, se dépouille de la part la plus artificielle de son être, s'il veut être sensible à ceux devant lesquels il va. Cette préparation, disait-il, cette quasi-initiation demande du temps, des efforts, des peines, même et des plaisirs dont il ne faut pas faire l'économie. homme de la ville, Serge n'allait pas jusqu'à prôner la marche à pied, comme seul véritable rythme permettant ce dépouillement de soi, mais il était persuadé que toutes les contraintes matérielles que connaît le voyageur chargé de son propre déplacement jouaient un rôle propédeutique des plus bénéfiques. Adrien, pourtant, fort peu pressé de se frotter à des problèmes d'organisation de voyage, avait été tout de suite séduit par la position de son frère. Convaincu que voyager, c'est aller autant à la rencontre de soi-même qu'à la rencontre d'autrui, il avait abondé dans le même sens que Serge, sans imaginer un instant la complexité des choses à régler. Lors des semaines de préparatifs avant le départ, il avait été tenté à plusieurs reprises de remettre en cause le projet, mais à chaque fois, il avait été retenu par le caractère de grande vérité dont ce projet lui semblait porteur. Lui, pour qui chaque jour est un voyage à la recherche de soi-même, et qui ne quitte guère un rayon de 500 mètres autour de l'appartement qu'il occupe, si ce n'est pour se rendre à Paris dans ses quartiers de prédilection depuis plus de 30 ans, lui, donc, se retrouvait engagé dans une itinérance autrement éprouvante. Et il voyait, au bout de ce périple, les manuscrits de Tichit luttant contre l'ensablement et l'oubli. Cette image, pour Adrien, valait qu'on lui consacre tous ses efforts, sans compter sa peine. Il fait beau, ce jour-là, sur El Jadida, beau comme toujours. Le soleil d'hier a demain lourd et sur les épaules. Aux terrasses des cafés, des touristes tentent de capter les moindres rayons en étalant leurs chairs blanches et indécentes. Sur les trottoirs, des enfants à la peau mate rasent au contraire les murs pour échapper à la lumière solaire et font ainsi d'étranges parcours déchiquetés. Dans l'ombre violente et sans demi-mesure que tracent les avances des toits. C'était au temps de Mazagan. Dans la ville, les plus pauvres traînaient autour des poubelles à la recherche d'un morceau de pain ou de quelques olives qui ne seraient pas trop passées et dont le goût pimenté ferait un instant oublier la faim. Ils sillonnaient les rues étroites, obéissant derrière un apparent désordre aux règles et à la hiérarchie propres à chaque bande. Parodie cruelle du monde des grands. L'enfant adorait ce jour de la semaine. Il fallait garder de l'appétit pour le repos du soir, auquel tous les vendredis, sa mère consacrait une attention particulière. Aussi lui donnait-elle toujours un sandwich pour son déjeuner, avec l'autorisation de se promener dans le quartier avec ses copains, le temps de le manger. C'était chaque fois le même ravissement, quand il faisait l'inventaire des rondelles de tomates, des cubes de concombres, sans oublier l'incontournable feuille de laitue sur laquelle reposait un petit morceau de thon, voire un quart d'œuf dur, le tout couronné par un de ces piments doux d'un vert si tendre qu'il était presque ému d'avoir à le manger. Il partait dans la rue, économisant son plaisir, le faisait durer, goûtant chaque saveur de cette nourriture qu'il pouvait consommer à sa guise, triant et gardant le meilleur pour la fin, tout en humant l'air salin qui venait du port. Souvent, il se laissait distancer par les autres, tout occupé qu'il était de ses raffinements de gourmet qui l'empêchaient d'avaler goulûment son sandwich. De toute façon, il l'avait déjà vu, ce nouveau bateau arriver dans la matinée. Puis il n'allait pas lever l'ancre aujourd'hui. Il aimait aussi, sans vraiment s'en rendre compte, cultiver un peu sa différence, à la fois rassembleur d'une meute de gamins en culotte courte qui ne faisait peur qu'à elle-même dans les jeux héroïques de l'enfance, et solitaire pour mieux parcourir les champs de ses rêves. Souvent, la tête brûlée, le premier de la classe, cédait ainsi la place au petit garçon grave et déjà en colère contre la vie. L'absinthe qui allongeait le café du père dès le matin, la silhouette de la mère penchée sur des ouvrages de couture quand il n'y avait plus d'argent à la maison, les frères et les sœurs qui s'endormaient les yeux pleins de larmes et le ventre vide, mais aussi les jours de fête et d'abondance où tout semblait si absurdement facile, cela donc traçait jour après jour des sillons profonds et irrémédiables dans le cœur juste sensible de l'enfant. Depuis un moment, il se sentait observé, peut-être même suivi. Il tira crânement sur le col de son polo et allongea le pas avec l'air de celui qui ne s'en laisse pas compter. Mais décidément, ce sandwich n'avait pas la saveur des bons jours, et il mastiquait avec difficulté, un goût crayeux dans la bouche. Au moment même où il allait se retourner, un éclair blanc l'aveugla. Son corps s'affaissa tout doucement, sans violence, sur le bord du trottoir, au milieu des rondelles de tomates que l'agresseur s'efforçait de récupérer le plus vite possible avant de s'enfuir avec son butin. Bientôt, on n'entendait plus que le bruit de sa course, et par terre, une large tache rouge s'élargissait lentement comme au ralenti. Dans le silence retrouvé de la rue, le soleil versait une chaleur de plomb et autour des lèvres de l'enfant perlaient des gouttes de sueur. Au café, quelques pas plus loin, le père refaisait le monde avec tout l'enthousiasme des naïfs qui se font gruger leur vie durant par des indélicats sans état d'âme. Il songeait à rentrer chez lui, la tête agitée de nouveaux projets qui devaient assurer sa fortune, et rêvait déjà de lendemains d'opulence. Il sortit sur le pas de la porte et vacilla un peu sous la violence du soleil, clignant des yeux pour les accommoder à cet espace de clarté aveuglante qui rejetait loin en arrière la fraîcheur sombre du café. Il avança doucement, les oreilles pleines encore de tous ces mots qu'on avait dits et des claquements que faisaient les dominos sur les tables de Formica. Plongé dans ses rêveries, il faillit buter sur le corps de l'enfant. Il se jeta sur lui, le prit dans ses bras, hurlant qu'on lui avait tué son fils. Et aux fenêtres, on se penchait, curieux et compatissant. Le père avait glissé ses bras sous le corps du petit dont les jambes se balançaient, abandonnés au rythme de la marche désordonnée de l'homme affolé. Il courait. « Il est mort, il est mort !» Et c'est cette voix blessée qui sortit l'enfant de son évanouissement. Une forte odeur ferreuse, insistante, acheva de lui faire reprendre connaissance. Et derrière la douleur que l'enfant ressentit et qui s'appropria sa tête dans l'instant même de son réveil, il y avait comme un étrange frisson de plaisir. Les bras du père étaient si doux, si tendres. Il fait beau aujourd'hui encore sur El Jadida. Aux terrasses des touristes, des cafés, les touristes étalent leur chair blanche et indécente. Dans la ville, les plus pauvres traînent toujours autour des poubelles à la recherche d'un morceau de pain. Et dans le cœur d'Adrien, devenu homme, il y a encore l'odeur du sang mêlée à la nostalgie de ses bras si doux, si tendres. Mais le père n'est plus là. C'était au temps de Mazagan. Adrien ne sait pas combien de temps il a dormi. La voiture est à l'arrêt sur le bas-côté de la route et Serge n'est pas là. Pourquoi cette scène-là? Songe-t-il en sortant pour s'étirer. J'ai tant d'autres images liées à cette ville. Non, ce jour-là, j'ai senti que mon père m'aimait, ça doit être pour ça. Serge sort à l'instant d'un petit chemin transversal. « Alors, bien dormi? C'est à ton tour de prendre le volant. Il faut pas qu'on traîne si tu veux t'arrêter un peu dans le berceau familial. Regarde, j'avais oublié, c'est exactement cette vision des remparts qu'on avait vue depuis le quart. Tu te souviens? C'était la première sortie scolaire à laquelle nous allions. On arrive bientôt. Dans une vingtaine de kilomètres. Pas plus. Oh, il me semblait qu'on avait fait un voyage qui avait duré des heures pour venir ici. Moi aussi. Mais Adrien, n'oublie pas, on ne s'attarde pas à El Jadida. Pas question d'aller faire la tournée des uns et des autres, de leur ombre et de leurs traces. Il faut qu'on avance, le plus difficile est devant nous. Je sais, on passe comme ça juste pour voir. Oh, les rues ne vont pas filer à l'anglaise, ne t'inquiète pas. Puis tu as toujours prétendu que les souvenirs n'avaient pas grand-chose à voir avec les yeux, alors. Oh, tu as raison, mais oh, je veux juste passer tout de même. Ils ne se sont pas arrêtés très longtemps à El Jadida. Adrien a voulu qu'ils circulent en voiture dans quelques-unes des rues de leur enfance, mais ils semblent presque malheureux d'être là. Et Serge a été plus ému qu'il ne peut le reconnaître. Des bouffées d'odeur leur caressent le visage de souvenirs, sans qu'ils aient le temps de s'y préparer. Des images voilent leurs yeux, sans qu'ils parviennent à démêler ce qui vient de leur mémoire de ce qui est réalité. Un peu perdus, ils ressentent un grand étourdissement d'être à la fois tellement au bord d'eux-mêmes et si dépourvus de repères que la certitude d'exister leur échappe, diluée dans cette tension, cette distorsion entre le passé et le présent. Sans un mot, ils quittent la ville, poursuivi par l'entêtante et douceâtre parfum des troènes en fleurs qui scellent la confusion des temps. Ils longèrent la côte sur plus de 800 km. Ils avaient décidé de descendre jusqu'à El Jaoun. Là, ils laissèrent l'océan à ses vagues et gobliquèrent plein sud-ouest pour traverser le Sahara occidental et entrer en Mauritanie à Tchoum. Ils ont compté 6 ou 7 jours de voyage entre pistes et routes plus ou moins goudronnées. Puis ce sera la dernière partie de leur périple, Attar, Tchidjika, Tchit enfin. 4 jours devraient suffire. Ils ont prévu des impondérables, panne, manque d'approvisionnement en essence, nécessitant une attente ou un détour, incidents divers. Serge a prévenu Adrien, le voyage ne peut être qu'éprouvant, et déjà tous deux mesurent combien cela peut être vrai. Serge ne cesse d'évoquer les dunes mouvantes qui campent et itèrent indéfiniment les mêmes mouvements sur la route de Choum. Les légendes à leur propos sont nombreuses, qui racontent des histoires d'esprit et de force vitale habitant chaque élément de l'univers. Adrien est plus inquiet de la quantité de mines qui truffent cette région, qui risque de rester bloqué par ces dunes itinérantes. Il aime d'ailleurs l'image de ce sable en marche vers des destinations non identifiables, ces déplacements indolents et silencieux de milliards de petits grains dorés, indifférents aux hommes et aux bêtes, qui depuis une éternité passent là et disparaissent sans laisser la moindre trace. Tu sais pourquoi le monde minéral fascine l'homme? Adrien et Serge roulent avec précaution sur une piste défoncée en tôle ondulée. Vas-y, explique. C'est sa totale étrangeté qui nous fascine, sa singularité totale par rapport à nous. Les animaux, les plantes même nous interpellent, nous répondent, nous contestent, d'une manière telle que nous y reconnaissons toujours quelque chose de nous-mêmes. Les pierres, elles, sont dans une absolue indifférence à notre égard. Elles ne nous parlent pas. De façon dérisoire, les hommes prétendent lire en elles leur histoire, mais ils n'y voient que ce qu'ils y mettent eux-mêmes, c'est-à-dire des jalons pour donner un sens et une dimension à l'écoulement de leur propre temps. L'histoire des roches, la géologie, oh, pauvres tentatives humaines pour se repérer. L'homme ne sait pas vivre sans balise et sans position. L'idée même du vide le saisit d'un vertige si angoissant qu'il doit se caparaçonner s'il ne veut pas mourir de ce vertige. Et l'imagination humaine travaille à inventer des caparaçons exactement comme elle travaille à façonner en homme l'image obsédante du vide. Tes caparaçons préférés, ce sont lesquels? C'est bien le problème. Je les choisis mal et je ne choisis pas ce qui pourrait m'ancrer solidement dans l'existence. Comme une famille, une maison, un métier, par exemple. Pourtant, tu as une femme et des enfants, un boulot, un appartement. Oui, mais je n'ai pas les idées qui vont avec. Qu'est-ce que tu veux dire? Les idées habituelles sur toutes ces choses, les préjugés, les pensifs? Oui, c'est ça. Pourtant, quand tu t'y mets, tu es capable de quelques bons clichés, bien droit dans leurs bottes, toi aussi. N'importe quoi. Tu en connais beaucoup des types aussi soucieux que moi, de nuances, de subtilités. Serge éclate de rire. Tu ne changes pas de rien. Ton amour-propre est toujours aussi chatouilleux. Non, mais c'est vrai, là, tu exagères. Allez, ne te fâche pas. Garde le sens de l'humour. Quand nous étions encore tout petits, qu'est-ce qu'on a pu te faire marcher comme ça? Tu te mettais dans des colères effroyables chaque fois que tu étais vexé. Ça nous protégeait pour un temps de ton droit d'aînesse et de ta science. Reconnais au moins. Laisse tomber, Adrien. C'était juste pour parler. Sous leurs yeux, des kilomètres de paysages défilent des heures durant, engendrant un lourd engourdissement de l'esprit qui vagabonde sans but ni cohérence. Souvent, l'un et l'autre restent silencieux, le corps ballotté par les chaos du véhicule et la tête pleine de songeries décousues, au milieu du halo d'or et de poussière, en suspension dans l'habitacle de la voiture. Parfois, ils ferment toutes les vitres et les ventilations pour se protéger, mais leurs cheveux sont toujours poudrés de sable et ils boivent régulièrement pour éviter de sentir crisser leurs dents tant le sable est fin et pénétrant. Ils alternent fréquemment les périodes de conduite et de repos. Serge vérifie systématiquement, avec carte et boussole, les directions prises, inquiet dès que la piste ou la route ne va pas exactement dans le sens voulu. Adrien est plus serein, son inexpérience lui donnant une innocence qui le protège des soucis que connaît son frère. À la tombée de la nuit, ils s'arrêtent près de cette petite gargote qui jalonne les étapes de leur voyage. En général, ils dorment à la belle étoile, préférant le ciel et leurs épais duvets aux draps douteux des chambres. Ils sont si fatigués qu'ils ne s'attendent pas dans la salle où ils se retrouvent les voyageurs nomades et touristes que le temps d'avaler un bol de riz au gras ou de mille aux fèves dans lequel se perdent quelques morceaux de gombos ou d'aubergine. Après une dizaine de jours, ils arrivent en vue de Tichit. La ville semble prise dans la terrible étreinte des dunes qui l'entourent et force leur passage jusque dans les rues, envahissant les cours et certains rez-de-chaussée de maisons. Il est midi, le soleil écrase une lumière blanche sur chaque mur, chaque arbuste, interdisant la moindre ombre, débusquant le moindre recoin. Il n'y a pas un signe de vie. Adrien retient son souffle, tant tant le silence est pesant. On est arrivé. Tu es sûr que c'est Ichit ? On se croirait à un bout du monde. Mais lequel ? On dirait une ville morte. Il n'y a personne. Oui, c'est une ville en train de mourir. Son agonie dure depuis des décennies. Ils ont coupé le contact en arrivant sur ce qui leur semble être la place principale de la cité déserte. Au bout d'un long moment, débarrassés du bruit du moteur qui perdurait dans leur tête, ils entendent le gémissement du vent. C'est lugubre. Non, c'est beau, d'une beauté délétère. Regarde, la gendarmerie est là, allons-y. Pouf, ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un. Tentons notre chance. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre. Il n'y a personne pour nous indiquer où se trouve la bibliothèque, et je suppose qu'il n'y a pas de panneau de civilisation. Puis, il faut déclarer notre visite. Dans la grande pièce sombre, un ventilateur brasse lourdement l'air. Un homme est assis derrière une petite table de bois blanc. Il boit du thé. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Une heure plus tard, Adrien et Serge ressortent de la gendarmerie. Ils ont dû décliner leur identité, répondre à un questionnaire en 3 exemplaires, puis préciser oralement l'objet de leur venue. Le policier a semblé méfiant quand ils ont dit venir pour voir la bibliothèque, et la profession de chercheur d'Adrien ne l'a pas vraiment amadoué. Il a été plus séduit, par contre, par le récit de leur voyage. Il n'y en a pas beaucoup qui se lancent dans un circuit pareil. On sait, mais on voulait prendre des vacances, n'être occupé de rien. Quand on reste sur place, c'est presque impossible. Alors, on s'est dit que si nous roulions avec pour seul but d'arriver à Ichit, on ne ferait rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. On a juste bavardé pendant des milliers de kilomètres. Et comme ça, vous demandez l'autorisation de rester pour faire des recherches à la bibliothèque. Oui, si c'est possible. Mon frère repartira en avion, son travail l'attend à Paris, mais il voudrait trouver un guide pour l'accompagner jusqu'à Tijitska. Et votre propre voiture, qu'est-ce que vous allez en faire ? Je vais la lui garder le temps de mon séjour ici, après on verra. Je crois que je rentrerai aussi en avion, on ne peut pas toujours être en vacances, et le voyage est long. Je vais appeler quelqu'un qui vous conduira chez le vieil Abitine. C'est votre bibliothécaire. Avant votre départ, il faudra venir vous présenter ici. Bien sûr, je n'oublierai pas. Dehors, l'air est blanc, de chaleur immobile. Le vent est tombé, laissant la place au soleil encore au zénith. Un gamin s'approche d'eux, leur fait signe de les suivre. Laissant le 4x4 sur la place, ils se dirigent vers une ruelle qui serpente entre les maisons aux murs verts et aux lourdes portes de bois ornementées. Après quelques minutes de marche qui le mettent en nage, le jeune garçon désigne une construction de pierre blanche et repart aussitôt sans avoir prononcé un mot. Serge et Adrien avancent et pénètrent dans une cour qui surplombe le désert. Là, sous un acacia, un homme se tient assis sur une natte. Penché sur un livre aux enluminures pourpres, il suit de doigt le texte en murmurant une mélopée lente et sourde. « Entrez et asseyez-vous, je vous attendais. On m'a annoncé votre arrivée. » L'homme a relevé la tête et sur son regard croise celui d'Adrien. « Il paraît que vous êtes un savant et que vous venez ici pour travailler ?» Serge est resté un peu en retrait. Il remarque que d'énormes volets de bois occultent la porte derrière le vieillard. Installez-vous aussi, vous aussi, dit-il en s'adressant à Serge. Je crois que nous avons beaucoup à parler. Nul ne peut prétendre avoir accès aux livres s'il ne cherche le savoir, mais nul ne peut le refuser à ceux dont l'âme a soif de connaissances. Il faut que je sache ce que vous cherchez. Je m'appelle Abidin et j'ai la charge des manuscrits. C'est une tâche écrasante. Les derniers mots se sont achevés dans un soupir de lassitude, et le vieil homme semble absorbé par quelques soucis enfouis au plus profond de lui-même. « Je sais, » murmure Adrien. La nuit est tombée sur Tichit. Il a fallu tout ce temps pour que chacun se découvre et raconte l'itinéraire qui a présidé à leur rencontre ici à des milliers de kilomètres de Paris. Il a fallu toute la sagesse d'Abidin pour calmer l'excitation d'Adrien et toute la passion de celui-ci pour convaincre Abidin de la possibilité de faire une enquête pour tenter de retrouver le manuscrit volé. Il a fallu tout le bon sens de Serge pour apaiser la conscience meurtrie du vieux sage et la fougue débridée d'Adrien, et pour proposer un plan d'action en tant soit peu cohérent. Les trois hommes se sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. Ils ont décidé de garder le secret de leur enquête personnelle. La police a agi de son côté, lançant des investigations qui peuvent être bénéfiques, mais Abidine n'y croit guère. Il n'est pas question de donner aux représentants de la loi l'occasion de penser qu'on l'estime peu capable dans cette affaire. De plus, les susceptibilités sont fréquentes dans ce milieu, et il est préférable de mener des recherches sans que cela se sache. Serge, convaincu que le document ne peut pas faire l'objet d'une vente en Mauritanie, propose de repartir sur Paris, d'où il pourrait obtenir des renseignements si le présumé voleur est français, comme le laisse supposer l'usage de cette langue lors de sa venue ici. Adrien a décidé de rester ici. C'est de toute façon le lieu idéal pour poursuivre ses travaux. Il est temps de dormir. Vous êtes mes hôtes. Auparavant, je vais vous faire venir de quoi manger. Je suis très frugal moi-même, mais vous êtes jeune et vous devez avoir faim. Abidine verse dans les petits verres opaques un dernier filet de thé presque noir, tant il était fort et sucré. « Voilà qui me suffit, » dit-il en trempant ses lèvres dans le breuvage. « Mais si vous me le permettez, j'aimerais rester en votre compagnie pendant votre repas. Votre jeunesse m'est d'un beau réconfort. »